Salut.
Salut.
Salut, salut.
Salut, c'est parti pour la 65e émission avec au menu une rencontre avec un photographe toulousain, David Ciodos.
Et bien évidemment, nos coups de cœur musicaux qui naviguent entre live jazz répétitif, dub incandescent, punk de vieux, folk revisité et électronique à géométrique rythmique.
Voilà, mais avant tout ça, on débute cette nouvelle émission avec une embardée sonique et on en reparle juste après.
Eh bien, on vient d'écouter High Priestess de l'artiste Gryphon Rue. Et c'est tiré de l'album, alors je ne vais pas vous le lire parce que ça ne se lit pas, c'est 4 petits N underscore O majuscule BJX. Donc ça ne se lit pas, comme vous l'avez compris. C'est une autoprod et c'est sorti en 2024. Donc l'artiste, la Gryphon Rue, qui est multi-instrumentiste, il touche à plein de machines, plein d'instruments. Il est new-yorkais et il nous livre ses jeux Sonic à nos oreilles assoupies et c'est tant mieux. C'est un peu une petite claque à nos repères et à nos habitudes, mais ça nous fait du bien. Et donc ici, on navigue dans plein de sonorités. En fait, ce gars-là, son grand-père était patron d'un club iconique dans les années 90, qui s'appelle Vinyl à New York. Donc il a eu le temps de façonner un petit peu ses oreilles et ses goûts. Et donc voilà, là on a un très bel album et on navigue donc dans, je vous disais, dans les sonorités en mouvement perpétuel avec une sorte de relief qui est toujours en mouvement. Ça n'a pas de genre identifiable sur l'ensemble de l'album, c'est bon entre avant-garde et electronica peut-être. Donc sur le morceau, en tout cas celui qui nous intéresse, Highest Priestess, il y a une sorte de rythme hypnotique qui est digne d'un morceau de calme mais en même temps et d'un tempo de samba. Ça sert de colonne vertébrale aux explorations électroniques, aux collages sonores et aux arpèges psychés qu'on trouve dans ce morceau. Lui, il appelle ça d'ailleurs son style de Elastic Dance. Je trouve que ça va bien, c'est pas mal comme définition. Voilà, je vous laisse découvrir la suite si vous êtes curieux de l'album.
Cool, on va enchaîner avec un autre morceau et une petite expérience avec un morceau un peu long d'une nouvelle sortie chez International Anthem, qui est un second album live pour le quartet de Jeff Parker, nommé Jeff Parker Eta Fortet. En fait, ces deux lives ont été enregistrés à l'Eta Highland Park à Los Angeles, qui est en fait un bar-restaurant à huîtres dans lequel le Quatuor y passe régulièrement apparemment. Voilà, dans ce Quatuor, on y retrouve l'excellent guitariste Jeff Parker, qui avait officié dans Tortoise et dans moult projets autour du jazz en ce moment là. Il fait pas mal de choses. Il y a le soyeux batteur Jay Bale Rose, le saxophoniste Josh Johnson et la contrebassiste Anna Butters, qui a d'ailleurs sorti un nouvel album cette année.
Attendu.
Qui va sortir même.
Oui.
Qui s'appelle Mighty Vertebrate, qui est sur le même label, International Zem, et aussi avec Jeff Parker et John Johnson.
Eh, étonnant.
La grande famille, quoi. Voilà, j'étais un peu passé à côté du premier live sorti chez Aguirre.
Un autre label, ouais.
Ouais, Aguirre Records. Et parce que j'ai généralement tendance à un peu fuir les albums live, et je me suis rattrapé depuis. Voilà, et à l'heure de l'enregistrement de cette émission, de ce nouvel album qui s'appelle The Way Out of Easy, qui doit sortir que le 22 novembre, on peut écouter que ce titre que je vais vous diffuser qui s'appelle Late Autumn.
Qui est de saison donc.
Qui est de saison et qui est une véritable tuerie, je trouve. Malgré, je vous préviens tout de suite, les 17 minutes 21 du morceau. Donc ça commence par un arpège guitare un peu bancal de Jeff Parker et puis vers une ambiance un peu plus jazzesque avant de finir sur un passage atmosphérique assez répétitif et minimaliste et super entraînant. Voilà, vous aurez compris, on n'est pas dans la surenchère mais plutôt dans une osmose, je trouve, assez rare entre les musiciens et c'est un pur régal pour les oreilles. Donc comme je vous ai dit, l'album sort officiellement le 22 novembre avec 4 titres. Normalement, il y a 80 minutes de musique prévue. Et comment, pour les curieux et les impatients comme moi, il y a moyen d'aller écouter un autre morceau sur une vidéo YouTube de ce live qui a été enregistré le 2 janvier 2023. Voilà, c'est un très chouette morceau qui inaugure, enfin j'espère, d'un très bel album live. C'est donc Jeff Parker Eta Fortet et c'est le morceau Late Autumn.
Thank you. Vous écoutez Un canon sur le zinc.
Thank you.
Eh bien, on vient d'écouter Atoms 5. Alors, je vous le dis en français, ou à peu près. Le groupe, c'est Giraffe, ou Giraffe, parce que c'est allemand, donc ça doit se dire peut-être comme ça, je ne suis pas sûr. Hein. Et c'est extrait de l'album Atoms, qui est sorti chez Stoffe en 2024. Donc là, on a affaire à un bel album. Alors, j'ai eu du mal à sortir un titre parce que c'est un ensemble où d'ailleurs il y a Atoms qui est décliné, je crois, 9 fois, oui. Il y a 9 superbes compositions et qui sont bien différentes mais qui s'entremêlent toutes, qui nous sont servies par un trio de Hambourg. Alors, il y a Sacha Demande à la guitare, Jürgen Hall au clavier et Charlie Schopner aux percussions. Et hélas, c'est un projet pas tout neuf, hein, ce qu'ils ont enregistré chez Charlie Schopner, et il est décédé depuis, et ils ont fini l'album un peu après cette drôle de nouvelle, quoi. Donc on a affaire ici à une sorte de mélange bien réussi entre musique électronique minimaliste, post-rock, dub, musique indus aussi, et musique improvisée, parce que chaque morceau d'ailleurs est improvisé. Il y a une grosse base de musique improvisée. Donc chaque morceau a souvent une solide ossature rythmique et une densité incroyable. J'ai trouvé ça assez étonnant, mais bon, je vous préviens, c'est quand même globalement assez sombre et glacial. C'est plutôt adapté au temps qui court, d'ailleurs, je trouve. Et c'est une très belle découverte que je vous invite à parcourir un petit peu cet album qu'on trouve évidemment sur Bandcamp, entre autres, à écouter librement.
Voilà, maintenant on va enchaîner avec une interview de Thierry. C'est un bel échange daté du 6 septembre avec David Ciodos, qui est un photographe toulousain, qui va nous permettre de découvrir son parcours, d'appréhender son univers et de nous présenter ses différents projets photographiques.
Vous écoutez Un Canon sur le Zinc.
Vendredi 6 septembre, c'est Un Canon sur le Zinc. Donc aujourd'hui, il y a une belle rencontre à Toulouse. On est dans le parc du Grand Rond, petit grand parc circulaire, donc à la table d'un petit bar à l'intérieur de ce parc. Et aujourd'hui, on rencontre David Ciodos, photographe. Et ben, on va déjà le saluer et puis lui demander de se présenter aux auditeurs, nous faire une petite autobiographie si tu veux bien, un petit parcours, ouais. Même un peu scolaire. Et...
Ouais. Alors je m'appelle David Ciodos, je ne suis pas toulousain, je suis troyen de naissance et j'ai 46 ans et je vis à Toulouse depuis à peu près 20 ans. Je suis venu à Toulouse il y a donc 20 ans pour bosser, rien à voir avec la photo. Et donc j'ai bossé comme tout le monde, et au bout d'un moment j'ai tout arrêté parce que ça ne me convenait pas, et j'ai par la suite acheté un appareil photo sous les conseils d'un ami, et ça a été le coup de cœur immédiat, alors que j'avais jamais goûté à ça. Au monde artistique j'ignorais tout, et ça a été le coup de cœur immédiat, et donc je me suis lancé pendant mon chômage corps et âme dans cette discipline, mais vraiment sans réfléchir, sans rien connaître, absolument rien. Et donc après, moi, je me suis passionné immédiatement sur tout, à travers des expos, à travers Internet, à travers les bibliothèques, à travers tout ce que je pouvais trouver pour que je puisse connaître en fait cet art. Et puis, de fil en aiguille, je me suis un peu perfectionné. Et puis, alors au début, je photographiais tout, mais tout. Et tout de suite, la rue, par contre, en numérique. Et puis un jour, je suis allé voir une exposition à Bram, côté de Carcassonne. Et c'était l'exposition de Willy Ronis. Et donc moi, j'avais peut-être, je sais pas, 2 mois ou 3 mois d'expérience photographe. Donc autant dire que j'étais très, très mauvais. Et quand j'ai vu ces photos, ça a été... une explosion, vraiment, prendre ces gens au quotidien, dans la rue, enfin bon, c'était magique. Et je me suis dit, voilà, je veux faire ça. Donc, je me suis lancé dès le lendemain à Toulouse, avec les contraintes d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, par exemple, le droit à l'image, et puis bah, plein de choses ont changé, quoi. C'est plus les années 60, quoi, ou 50. Et donc, bah, voilà, j'ai fait ça pendant bah, quelques années. J'avais un petit boulot à côté. Et puis, bah, mon emploi du temps était bien chargé, mais j'étais heureux. Voilà. Voilà.
Eh bien, c'est une bonne introduction. Effectivement, tu racontes beaucoup de choses. Oui. Tu as déjà mangé deux, trois de mes questions. J'allais te demander quel a été ton cheminement vers la photographie et vers ton style. Tu peux donc peut-être un peu affiner. Donc, tu es un total autodidacte, mais tu t'es formé en lisant, en regardant, en écoutant. Et comment tu as aiguisé un petit peu ton esthétique, ton regard esthétique, qui est bien particulier. On en parlera. D'ailleurs, tu peux peut-être nous en parler, comment tu le définis.
Oui, alors, bah, mon esthétique, bon, déjà, j'ai toujours été attiré par la rue. C'est toujours été quelque chose qui m'a plu. Le noir et blanc est arrivé très rapidement. Donc, au début, je faisais des scènes de vie à la Willy Ronis, on va dire, à la manière d'aujourd'hui. Et puis un jour, par hasard, je suis tombé sur un livre d'un photographe japonais qui s'appelle Daido Moriyama. Donc rien à voir avec le style de Willy Ronis. Donc là, c'est des photos très contrastées, pas forcément cadrées, prises à la volée, très brutes, avec un grain fort et deuxième explosion, quoi. Voilà, j'ai aiguisé mon œil. Comme ça, en découvrant par hasard des nouveaux auteurs. Et Moriyama, ça a été le premier déclencheur. Le deuxième, ça a été Michael Ackerman, qui est toujours quelqu'un que j'admire énormément.
C'est un photographe américain ou anglais ? Tu sais peut-être pas.
Il vit aux États-Unis et à Berlin. Il est polonais, je crois. Il me semble, je dis peut-être des bêtises. Je dis certainement des bêtises. Je sais pas.
Il est photographe, pareil, des thématiques de rue.
Ouais, c'est plutôt des thématiques de rue, donc pareil, avec un contraste assez fort. Il a aussi fait une série en Inde qui est extraordinaire. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ses photos, c'est le flou, c'est la photo filée, pas figée, c'est le mouvement, le non-contrôle, le lâcher-prise. Je me suis tourné naturellement vers, pas à copier, mais à essayer de m'inspirer de ces gens-là. Donc déjà me tourner vers l'argentique, avec des matériels vieux, presque cassés quelquefois, poussiéreux, que je ne lave jamais, parce que moi je suis vraiment en recherche de matière aussi. Et puis à utiliser des pellicules usagées, des pellicules périmées.
C'est un peu pictural.
Ouais, un peu. Ouais. Bah, c'est vrai que la peinture me plaît. Enfin, ça a toujours été un fantasme aussi. Bon, je suis très mauvais, malheureusement.
Mais t'as jamais été tenté par le traitement sur pellicule ou
Alors si je. Alors je peux retoucher mes pellicules, mes négatifs, en y mettant, en grattant ou des fois en y mettant de l'acide ou en faisant des choses comme ça. Par contre, je ne retouche rien en post-prod, quoi. Je fais rien sur Photoshop, absolument presque rien. Voilà. Après, j'ai d'autres techniques un peu particulières. C'est que quand j'ai commencé à travailler vraiment sur un sujet, en l'occurrence le périphérique, donc là, je suis ressorti de mes photos du quotidien à la manière d'eux. En fait, en gros, un jour, je me suis fait emmerder par un gars en ville. Et ça m'a touché. Et du coup, j'ai eu besoin de prendre l'air. Et j'ai pas trouvé mieux. Je ne sais pas pourquoi j'ai atterri là, mais je me suis retrouvé sur les abords du périphérique. Voilà. Et là, j'ai rencontré un gars, un marginal, qui vivait là, dans sa petite cabane, vraiment en bordure de route. Et puis on a parlé, et c'est la première fois que je parlais si longtemps avec quelqu'un dans sa condition. Et puis à la fin, je lui ai demandé si je pouvais faire un portrait. Il a accepté. Et puis là, je me suis dit, en fait, j'ai peut-être une histoire à raconter. pour le coup, avant je faisais des photos à la volée, sans vraiment de lien, sans vraiment de sens. Et là, j'avais un vrai sujet, une vraie histoire à raconter. Donc ces gens qui vivent là à côté, qu'on ne voit pas, donc des marginaux, mais pas que, sur les abords du périphérique. C'est parti de ça. Et un jour je suis tombé sur une personne qui était adossée au mur du périphérique à Toulouse. Et il avait une aiguille dans le bras. Il était en plein shoot. Mmh. Et moi, ça m'a... Alors, j'en avais vu déjà en ville, caché, mais là, c'était différent. C'était brutal, en fait. La situation, l'isolement du gars, les voitures qui passent, c'était particulier, quoi. Cette aiguille dans le bras, et je ne sais pas... Alors, j'ai eu très envie de photographier. Alors, on peut être pour ou contre l'idée, mais ouais, j'étais pris comme une pulsion de faire la photo. Mais je voulais pas la faire de façon brute. Il fallait autre chose. Il fallait limite qu'on le reconnaisse pas, en fait. Que ça soit comme un fantôme, une ombre. Et j'ai baissé la tête, et par terre, il y avait des bouts de verre, en fait. Et parce que tu trouves plein de choses, en fait, sur les abords du périphérique. Comme sur des bouts de trottoir, d'ailleurs. Et j'ai ramassé le bout de verre, et instinctivement, je l'ai mis devant. Je ne sais même pas pourquoi.
T'as voilé ton image ?
Bah ouais, je l'ai mis devant l'objectif. Et alors, je ne savais pas ce que ça allait faire, évidemment. Alors, je voyais à peu près que ça déformait l'image et qu'on ne pouvait pas trop reconnaître cette personne. Donc ça me plaisait bien. Et puis, bah, ça donnait des lignes un peu particulières. Et donc, j'ai pris la photo. J'ai pris plusieurs photos et je suis parti. Et donc, j'ai fait développer ça. Et c'est vrai que le résultat était incroyable. Parce que je me suis dit, putain, t'as une image forte et poétique. Mmh. Et... immersive, mais pas intrusive, en fait. Personne ne peut reconnaître ce gars, mais en même temps, tout le monde sait qui il est, quelque part. Tout le monde sait que c'est quelqu'un qui vit dehors, tout le monde sait que... Voilà, et ça, ça m'a plu. Et je me suis dit, tiens, en faisant ça, eh ben, je signe mes photos pour la première fois de ma vie, je fais plus de photos à la manière d'eux, j'ai trouvé un style. Et par la suite, j'ai réfléchi à ce système-là et je me suis dit que bon, l'esthétique, la photo rend bien, c'est sympa. Maintenant, quel est le sens de tout ça ? Et je me suis dit qu'en fait, ces gens que je rencontrais, bah, ce sont des gens qui sont filtrés quelque part par le monde, par la société. Ce sont des gens qui sont invisibilisés. Et le fait de reprendre ce filtre, eh bien, au moment de la prise de vue, eh bien, je rappelle ça, en fait. Une sorte de métaphore artistique. Mmh. Et du coup, le sens, il est là. C'est que l'esthétique, d'accord, mais le sens de l'image finale, eh bien, il est présent aussi, quoi. Et du coup, bah, j'ai continué avec cette technique-là, en faisant bien gaffe que l'esthétique ne prenne pas trop de pas. Toujours trouver un juste milieu. Et voilà, c'était... après, ça a été un long chemin de perfectionnement. J'ai remplacé le verre parce que bah, c'était lourd, parce que des fois, j'avais des longues plaques, et puis des fois, je me coupais. Et donc, j'ai remplacé ça par du plexi, c'était plus léger. Et puis, je me suis affiné.
Donc, tu as tout un set avec toi, tu te trimbales,
ouais.
Et tu vas choisir selon le sujet. La lumière, non, ça vient...
C'est limite
comme de... Moi, je parle de la musique improvisée,
ouais.
Mais c'est vraiment un coup comme ça, des essais, un coup de cœur.
J'ai tout dans mon sac et je sors. Et puis, bah, ça tombe sur ce que ça tombe.
Donc, il y a une part d'impro,
ouais,
qui est importante pour toi,
ouais,
aussi.
Carrément. Part d'impro, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça attise la curiosité des gens que je peux rencontrer. En me disant, mais qu'est-ce que c'est que cet attirail ? Alors, je m'explique.
Donc, ça ouvre la porte,
bien sûr.
Comme un micro ouvre, délie les langues.
Oui, mais encore une fois, je ne fais pas ça pour attirer l'œil.
Non.
La personne avec qui je vais parler, tout se joue à l'œil, mais pas par le matériel que je transporte. Il faut que, enfin, c'est une complicité immédiate en fait. Je le sais de suite si ça va marcher ou pas.
Tu le sais rapidement maintenant, ouais, ouais. D'expérience.
Ouais, ouais.
Tu sais selon au premier regard.
Tout est dans l'œil en fait. Je sais si la personne va être intéressée par ce que j'ai à lui dire et ouverte à l'expérience. Après, c'est vrai que moi, je passe beaucoup de temps à m'imprégner des histoires de ces gens-là que je rencontre. La plupart du temps, mon appareil photo est dans mon sac. J'apprends à les connaître et après, je leur propose. Mais je vais pas m'asseoir à côté d'eux si je sens que ça va pas le faire dès le départ. Ouais.
Et ils sont pas étonnés de te voir comme ça. Ils se posent pas la question, mais qu'est-ce que tu...
Bah si.
Parce que c'est tellement rare, parce qu'on a tendance tellement à pas les voir.
Oui. Bah c'est aussi le but de la démarche. Oui. C'est que la plupart du temps, ils me demandent, mais pourquoi tu t'intéresses à nous? Et puis ça va intéresser qui? Moi, ça me touche.
Tu leur offres des tirages des fois, ouais, de leur propre image.
Ouais. Alors quand je peux, quand je les retrouve, parce que la plupart ce sont des gens qui bougent beaucoup, surtout en ville. Les gens que j'ai pu rencontrer sur les abords du périphérique ou par la suite la personne que j'ai rencontrée en forêt, c'est des gens que j'ai retrouvés parce qu'ils sont installés là. Donc ça c'était facile. En ville c'est autre chose. C'est des gens qui bougent beaucoup, qui sont des fois là que pour une nuit. Donc quand j'arrive à les retrouver, je leur offre. Sinon, à la maison, j'ai un stock de photos en 10-15 que...
Qu'attendent leur...
Oui,
leur rencontre.
C'est là et ça sera là longtemps, à mon avis, mais c'est pas grave. C'est pas grave.
We'll be right back.
le périphérique, ça a commencé comme ça, avec cette fameuse rencontre. Donc moi, après, j'ai tourné pendant 3 ans à Toulouse. Toulouse, pourquoi ? Parce que je vis là. Et puis parce que je savais que ça allait durer un certain temps. Donc je ne pouvais pas me permettre d'aller à Paris 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là. Il fallait que ça soit au quotidien. À l'époque, j'avais un petit boulot, j'ai tout lâché pour me consacrer à ça. Donc pendant 3 ans, j'ai tourné. J'ai rencontré des marginaux, j'ai rencontré des prostituées, j'ai rencontré des gens paumés, j'ai rencontré des gens qui couraient, plein de gens. Un gars qui s'exerçait à la musique avec son sousaphone, une sorte de gros instrument, et qui disait, moi, c'est le seul endroit où j'embête pas mes voisins. Donc c'était assez intéressant. Et dit, au bout de 3 ans, bah, à force de tourner, je me suis rendu compte que j'avais justement fait un peu le tour, que je refaisais les mêmes images que j'avais déjà faites, donc c'était moins intéressant. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il est temps de continuer sur ce sujet, mais ailleurs, dans un autre lieu. Et l'idée est venue de faire une sorte de trilogie sur ce sujet de la vie différente, dans 3 lieux différents. Donc le périph, la ville et la forêt. Donc la ville, avec la série qui s'appelle À l'ombre des vivants, la série donc, que tu mentionnais, c'est la suite de Périphérique, avec mon retour en ville et donc à Toulouse. Je précise pas souvent l'endroit, parce que final la ville reste la ville, l'urbain reste, c'est quelque chose d'universel, et puis mes photos sont suffisamment presque floues pour que ça soit quelque chose. Ça pourrait être ailleurs, ça pourrait être n'importe où au final, donc ça c'est pas très important. Mais donc À l'ombre des vivants, c'est une série sur les gens qui vivent ou qui travaillent dehors. Donc à Toulouse, et c'est des rencontres de SDF, de prostituées, la même chose quoi.
Il y a un petit changement esthétique, il me semble, ouais. Non, j'ai l'impression que tu abordes quand même, il y a un petit virage, tu peux nous en parler, ou une évolution?
Mais oui, en fait je me suis perfectionné, on va dire, mon œil a changé, j'ai grandi aussi en tant que photographe. Mon matériel aussi, j'ai opté pour un matériel beaucoup plus léger, donc ça a changé pas mal de choses. Il fallait que je sois assez libre de mes mouvements, il ne fallait pas que je sois surchargé comme une mule, et voilà. Après donc, moi j'ai bossé beaucoup la nuit aussi, ça a beaucoup changé par rapport à Périphérique. J'ai bossé la nuit parce que c'était plus simple de faire des rencontres dans ces moments-là, et puis aussi parce que la nuit apporte beaucoup plus de mystère, et ça c'est quelque chose qui me plaisait. Puis un jour, j'ai rencontré un gars sous un pont qui m'a dit un truc qui je m'en souviendrai toujours, qui m'a dit « Ma vie est un rêve qui ne se finit jamais. » Et je me suis dit que c'était très fort en fait, il avait tout dit. Et je me suis dit que l'idée était là, c'est d'essayer d'aborder cette série-là comme un rêve qui ne se finit jamais, en fait. Avec des photos filantes, avec des photos...
Oui, c'est très onirique.
Tellement. Et je voulais parler de la rue, je vais pas dire comme on l'avait jamais fait, parce que tout a quelque part déjà été fait, mais à ma manière, de telle sorte qu'on ne reconnaisse pas les endroits, qu'on ne reconnaisse presque pas les personnes, que ce soit des ombres. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé cette série comme ça, À l'ombre des vivants. Et quand j'ai eu fini, j'avais la volonté de faire un livre. J'ai fait une petite maquette et je suis allé au Festival d'Arles. C'était il y a 3 ans, à peu près, 3 ou 4 ans. Et j'ai rencontré 2 personnes, 2 photographes belges, qui s'appellent Simon Van Steenwinkel et Mathieu Van Hache, qui sont les fondateurs de la maison d'édition Le Mulet. Et donc je leur ai présenté ma maquette et ils ont été emballés et on a bossé ensemble sur le livre. Donc ça c'était génial parce que c'était tout nouveau pour moi de bosser avec d'autres personnes.
T'as concrétisé, oui, pour la première fois ton travail dans un livre.
Alors j'avais fait un livre de Périphérique, mais tout seul, en auto-édition. Alors on l'a fait à deux avec un ami qui est poète. Donc on y a incorporé des poèmes et mes photos, mais on a bossé seul, sans vraiment de, beaucoup d'expérience dans l'édition, donc c'est quand même bien particulier, c'est un vrai métier. Et là, pour le coup, je laissais mon travail à d'autres, à des pros, à des gens qui savent comment bosser, qui sont eux-mêmes photographes, qui comprennent mes photos. Et j'avais besoin de ça, en fait. Parce que bosser avec une maison d'édition, c'est bien, mais je ne pouvais pas bosser avec n'importe qui. Et j'ai senti qu'avec eux, ça allait marcher. Et bah, le livre est sorti. Alors, on a eu des difficultés parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. Mais on l'a fait et bah, il est là, il est en librairie, il est un peu partout.
Oui, c'est quand même une forme, un premier aboutissement clairement, à ton travail.
Clairement. Et ça a été très émouvant d'ailleurs.
Les expositions également. Bah, tu as exposé à Toulouse, oui. Pas dans n'importe quel lieu.
Oui, au Château d'Eau. Ça, c'était fou.
Ça a dû te faire un sacré choc de toi qui est passionné pour la photo de te retrouver exposé alors que tu as dû venir tellement de fois.
Ah oui, oui, bah, c'est un lieu que je connaissais par cœur. Secrètement, dans un coin de ma tête, je l'ambitionnais, mais j'y croyais pas vraiment. Et puis un jour, bah, Christian Cojol m'a appelé. J'y croyais pas non plus. J'ai cru à une farce. Et puis, bah, ça s'est concrétisé par une super expo. Le livre dans la foulée. Bon, c'était une bonne année. On va dire que c'était. Après, j'ai exposé aussi à Bruxelles dans une super galerie qui s'appelle l'Enfant Sauvage. Les Sauvages, en fait, c'est la suite de À l'ombre des vivants, mais donc là, ça se passe en forêt. Et c'est la première histoire avec une seule personne. Donc c'est très intime. C'est quelqu'un que j'ai suivi pendant 3 ans.
Avec son chat.
Avec ses chats.
Ses chats.
Et c'est une histoire qui a commencé difficilement. Je savais qu'il y avait des gens qui vivaient en forêt, mais ça a été très très compliqué de suivre quelqu'un au quotidien. Toute cette expérience qui a duré 10 ans m'a appris ça aussi. On choisit pas de s'installer sur un bout de trottoir pour les mêmes raisons qu'on s'installe en forêt. Quelqu'un qui vit en forêt sans être sociologue, il veut vraiment être seul. Il veut vraiment s'exclure des autres, du monde.
C'est à Toulouse d'ailleurs ?
Ouais, à côté, du côté de Blagnac. Mmh. Et bah ce monsieur-là, qui a une quarantaine d'années aujourd'hui, je l'ai rencontré par hasard, et puis ça a été tout de suite comme un flash amoureux, quelque part. Et donc, bah, au bout d'un mois, il a accepté que je le prenne en photo, parce qu'il voulait vraiment... c'est une série qui s'appelle Sauvage, et pour le coup, lui, il était un peu, moi aussi. Et pendant 3 ans, bah, on s'est découvert, on s'est suivi, je l'ai pris en photo, je l'ai suivi un peu partout, dans son camp, quand il faisait les poubelles du casino, quand il allait faire ses courses, quand il allait voir le psy, ça s'est arrêté brutalement pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, il ne veut plus me voir, malheureusement. Et aujourd'hui, donc, je suis en train de bosser sur une maquette de livre que je ferai probablement seul. Retour à l'auto-édition. Et bon, c'est un long chemin, mais j'espère que le résultat sera chouette. On verra.
Pourquoi le mulet te suit pas et ne peuvent pas se permettre de...
Parce que je crois qu'il voulait arrêter l'édition. Donc ils vont refaire un livre avec un autre auteur qui s'appelle... je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Bon, je dis rien.
Dis rien. Je dis rien. Ils faisaient une revue aussi, il me semble.
Ouais, ils font plein de choses. Ils font plein Tropical Stump.
C'est ça.
Ils font plein de choses. A priori, ils devaient arrêter après moi. Donc l'expérience...
Tu n'es pas parti en quête d'un autre éditeur compliqué ? Si. Ça a été compliqué. Les rencontres ne sont pas simples. Et tes exigences se confrontent aux règles du marché.
Je sais, c'est difficile. C'est difficile à dire. Je ne veux pas me fermer de porte. Mais c'est compliqué. Il y a des éditeurs incroyables. Je pense à David Fourré qui fait un travail incroyable. Il y a plein de gens, les éditions de Juillet, enfin, Leitmotiv. Enfin, il y a plein de gens qui sont super. J'aimerais, pourquoi pas, passer par une maison d'édition, mais ce projet est tellement particulier pour moi que j'ai des idées C'est comme
envie de le contrôler.
Ouais, j'ai envie de tout contrôler, y compris la texture du papier, y compris tout. Et c'est vrai que c'est mon bébé, en fait.
Tu n'as pas pensé à un financement participatif, si, j'imagine ?
Ben, on verra. Peut-être un système de précommande, peut-être être aidé par la région qui peut aider, qui m'avait aidé notamment pour À l'ombre des vivants. Bon, il y a pas mal de possibilités. J'ai le temps parce que voilà, je suis pas pressé, mais je veux que j'aimerais que ce beau projet voit le jour à un moment donné, quoi, pour vraiment clôturer tout ça. Okay. Un jour, j'ai fait une expo dans l'Aude par le festival Artiste à suivre. Et au moment, alors c'était il y a quelques temps maintenant, et au moment de l'installation, j'ai rencontré un monsieur qui rentrait dans la salle où j'exposais. Et il se trouvait que ce monsieur était aussi marginal, comme quoi. Et c'est un monsieur qui s'appelle Michel, qui est beaucoup plus vieux, puisqu'aujourd'hui il a 76-77 ans, qui vit du côté de la Montagne Noire. Et on a un peu discuté et il m'a invité chez lui. Et donc, ben, j'y suis allé. Et puis, ben, j'ai fait tout un travail sur sa vie, sur sa cabane qui a brûlé et sur sa reconstruction. Donc, c'est un sujet qui est fini aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux le dire, je pense, que pour le coup, c'est vraiment fini sur les thématiques sociales. Donc pour l'instant, je suis en réflexion sur quelle sera la suite en termes d'histoire. Je suis posé, donc je prends le temps. J'aimerais partir sur quelque chose de complètement différent. Pourquoi pas raconter un fait divers. Je pense à une histoire que mon beau-papa a raconté à ma fille qui s'appelle les Trabucaires. C'est un fait divers qui est arrivé il y a 200 ans sur des gens qui volaient, des gens pas très, des brigands on va dire, qui parcouraient les routes de la Catalogne. Et bon, il est arrivé quelque chose de pas super sympa. Et j'aimerais le raconter aujourd'hui, 200 ans après, en photo. Comment, pourquoi, je ne sais pas, c'est en réflexion.
Presque aborder une sorte de fiction documentaire. Voilà, ok. Eh bien, c'est un beau projet. J'avais envie de te parler un petit peu de. Tu vas me trouver, mais notre grande préoccupation aussi dans notre émission de radio, c'est la musique. Et quand j'ai regardé tes images, figure-toi que moi, c'est un peu une habitude, j'ai tendance à mettre à y entendre des musiques.
Ouais.
Et à entendre des sons, et je trouvais qu'il y avait peut-être un univers sonore.
Ouais.
Que tu as aussi, tu as peut-être en tête quand tu travailles, quand tu les travailles à la maison, quand tu te balades dehors avec peut-être un casque. Ça me faisait, on aurait pu y entendre de l'ambiance, de l'abstract hip-hop, des thématiques ou du trip-hop, des choses un petit peu avec du blues. Quoi.
Ouais,
mais je voulais savoir quel était ton rapport à la musique et est-ce que si ça a une place dans...
C'est ce qui est le plus important dans ma vie. Pas humainement parce que c'est ma fille aujourd'hui, mais sans musique ça serait très très compliqué bien avant la photo. Quand j'ai commencé la photo, que j'allais travailler en ville, je travaillais avec un casque où j'écoutais de la musique toute la journée et je prenais des photos. Puis un jour j'ai fait une expo avec un monsieur un artiste qui s'appelle monsieur Peignard. Qui m'a dit mais comment ça tu fais des photos, tu parcours la ville avec un casque mais tu te coupes de tout, tu es dans ta bulle et comment tu peux rencontrer les gens. Et je me suis dit mais oui mais mince mais bien sûr il a raison, donc j'ai enlevé mon casque et puis je me suis rendu compte que ça marchait aussi. Donc la musique je l'ai moins écoutée en faisant des photos, je l'ai beaucoup plus écoutée après. Quand je fais mes editings ou quand je les retravaille, ou enfin voilà, quand je suis à la maison, il y a toujours de la musique. Et donc, qu'est-ce que j'écoute? Tu as raison, beaucoup d'abstract hip-hop, évidemment. En fait, moi j'ai commencé premières inspirations, ça a été beaucoup de musique grunge ou punk. Bon, j'ai beaucoup écouté Sonic.
C'est générationnel. Ouais, générationnel.
Ouais, voilà, ou Nirvana, ces choses-là. Je me suis aussi beaucoup tourné vers le post-rock. Ce matin, par exemple, en bossant, j'ai écouté Björk. J'ai trouvé ça dingue. Enfin, je trouve ça dingue. Les orientations musicales de Thom Yorke, ça me touche beaucoup, beaucoup.
The Smile.
Ouais, carrément, carrément. Après, en termes d'abstract hip-hop, moi j'aime beaucoup Shadow, j'aime beaucoup Crush, j'aime beaucoup ces gens-là. Ce matin, j'ai aussi écouté un gars qui s'appelle Alias, pour ceux qui connaissent, Sixto, enfin ces gens-là. C'est moi quelque chose qui me transporte et qui me touche au plus profond, quoi.
Qui raconte des histoires, ça.
Ah, ouais, clairement. Et puis qui résonnent, quoi, qui me font vibrer. Mmh. Et alors après, pour dire d'où ça vient cette passion pour la musique, de mon papa. Je vais essayer de pas trop être ému, mais ouais. Les Pink Floyd, évidemment.
C'est une belle rencontre. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir accordé un petit peu de temps. C'était très chouette. Ça valait le coup de se déplacer de Carcassonne, je peux te le dire. Et j'aimerais aussi j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut aller te voir quelque part? Est-ce que tu as prévu d'exposer? Et en tout cas, j'invite à tout le monde à aller découvrir déjà ton site avant de trouver une expo ou le livre qui est édité, que vous trouvez dans les bonnes librairies.
Alors, déjà, c'est moi qui te remercie. Merci pour l'invitation. Je suis ravi. Alors pour me voir, pour voir mes photos, mes expos, alors pour l'instant pas grand chose de programmé, sauf dans l'année, il est programmé, alors je ne sais pas encore quand, que j'expose dans cette fameuse galerie à Bram, là où tout a commencé.
Très bel endroit, ce château.
Oui, j'en reviens toujours pas, mais ce qui est rigolo, c'est que c'est comme si je revenais au point de départ, en fait. Donc j'en suis ravi. Les dates, je ne les connais pas encore. Ce que je vais exposer, non plus, mais j'y serai. Avant ça, pour l'instant, pas grand-chose. C'est vrai que je bosse beaucoup, beaucoup sur mes bouquins. Donc, pour l'instant, c'est assez calme en termes d'expo. Mais on verra, ça va s'ouvrir.
Donc j'invite tout le monde à suivre l'actualité de David Ciodos et j'espère qu'on te rencontrera. Moi, je te rencontrerai à Bram sûrement, parce que ça sera l'occasion de te revoir, ça sera un vrai plaisir. Je te remercie beaucoup, David, je te souhaite bon vent.
Merci beaucoup, merci à tout le monde, et puis j'espère que l'interview vous plaira à tout le monde. Et à bientôt.
Vous écoutez un canon sur le zinc.
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 We'll be right back.
C'était Great de ZX. C'est un hippie, pas le babo, c'est le format, sorti cette année sur leur propre label X Records, qui s'appelle Great, et l'autre morceau s'appelle The Evidence. Voilà, je vais vous le passer ce morceau parce qu'on a eu un petit moment spécial cet été. On a eu l'occasion, la chance d'aller les voir en concert, ces inusables Hollandais qui étaient fin juillet au festival Grand Chemin à Clethermes. Voilà, ils ont fait un super concert avec de nouveaux morceaux, ce qui présage d'un énième album, donc du coup d'un single avant pré-album. Voilà, c'est un groupe hollandais qui a presque maintenant 35 ans d'existence. Voilà, même si la musique, mais les musiciens ont un peu évolué, on retrouve des gens comme Andy Moore, Thierry X, voilà, et comment il s'appelle le chanteur, j'ai oublié le nom, et qui a remplacé JW Sock, bon bref. Donc, ce que je voulais dire, ouais, les musiciens ont un peu évolué et changé, mais le propos reste le même. C'est efficace, énergique et toujours punk, malgré les années passées. Et ça présage d'un super album, je pense. Et voilà, c'était pour faire un clin d'œil à ce groupe mythique que je suis depuis.
Ils comptent toujours le feu, hein.
Ils ont beau avoir approché les 70 balais. Ouais,
créatif et efficace.
Ouais, c'est super bon. Voilà.
Et tout de suite, on écoute The Merry Golden Tree, un extrait de l'album de Shovel Dance Collective, sorti chez American Dreams en 2024. Alors, ce groupe de 9 musiciens nous vient de Londres et s'inspire des musiques traditionnelles, alors c'est bien bien folk, hein, anglaises, écossaises et irlandaises, du 16e siècle au siècle suivant. Là, ça navigue un petit peu. Alors c'est un peu difficile d'en parler parce que j'ai pas de mots, parce qu'on a bien affaire à une formation folk, mais ils apportent une touche d'expérimentation à leur composition qui sort de ce qu'on entend par. C'est-à-dire qu'eux, ils restent dans l'acoustique, mais il y a une forme de. C'est les arrangements, la composition qui sont assez originaux. D'ailleurs, vous avez ce morceau-là, le travail sur les voix est vraiment très, 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 très élaboré, avec un bourdon, l'utilisation d'instruments. Alors, je crois qu'ils ont plus de 25 instruments, parce qu'ils sont assez nombreux et ils touchent à beaucoup d'instruments. Donc voilà, ils ont une façon de revisiter la tradition qui est bien à eux. Je vous invite à découvrir tout ça. Et effectivement, ces compositions et ces arrangements sont résolument modernes. Voilà, le travail sur les voix est particulièrement riche et les polyphonies travaillées. En plus, ils ont plusieurs chanteurs avec des voix incroyables. Et c'est tout ça, c'est bien intense. À vous de découvrir la suite. The name of the ship was a Merry Golden Tree. Sailing on the line, on the lonesome line. Sailing on the lonely Lowland Sea. Hadn't been out scarce 2 days or three before they sighted the British robbery. Sailing on the line, the lonesome line, flaunting the Jolly Roger on the line. Up jumped the captain, wringing of his hands. He cried, "O Lord, now what shall we do? They'll sing us in the low and the lonesome." Sink us to the bottom of the Lowland Sea.
pan and spoke, the little cabin boy sang, what will you give me if I land destroy? By Sikkim and the love and the lonesome love, sink him to the bottom of the gold, and I'll pay a fee, my youngest daughter, and she will marry thee. If you sink him in the Lord, the Lord's alone, sink him to the bottom of the lowland sea. So he turned on his back, and away swam he until he came to the British robbery. Sailing on the line, the lonesome line, floating the jolly rotter on the lowland sea. Well, some was playing cards, and some was at the dice, and some was taking the best friend's advice. Sitting on the lonesome line, flaunting the jolly rotter on the lowland sea. He had a little tool just right for the use. He bore nine holes just to let in the news. Sailing in the land, the lands are alive. Sailing on the lonely, lowland sea. Well, some threw their hats and some threw their caps, but they could not stop those salt water gaps. Sailing in the long, long summer, flaunting the jolly rotter on the lowland sea. So he turned on his back, and away swam he until he came to the merry golden tree. Sailing on the land, the lonesome sailing, sailing on the lonely lowland sea. Oh, captain, captain, take me on board, you'll do unto me just as good as your word. For I sank him in the long, long summer, sank him to the bottom of the lowland sea. Will I not pay you gold, nor yet pay you fee? My youngest daughter, she'll never marry thee. I'll turn you in the long, the long summer, leave you to drown in the lowland sea. If it wasn't for your daughter, nor yet for your men. I'd do unto you just as I did to them. I'd turn you around. Turned on his back and away swam he. Farewell to you, you merry golden tree. I'm drowning in the
écoutez un canon sur le zinc.
Thank you.
On vient d'écouter Keta de Andrea Taigi, un compositeur, musicien et producteur de musique électronique italien qui vit à Berlin. Et il sort ici un nouvel album sur l'excellent label Ends in the Dark. Pardon. Et l'album s'intitule Not Dead. Voilà, c'est une belle découverte que j'ai faite là récemment. C'est une musique électronique un peu complexe avec des rythmiques très fournies et très, très géométriques, on va dire.
Et, rythmique.
Voilà, géométrique, rythmique. Des recherches musicales qui. Ouais, il fait plutôt des recherches musicales qui portent
très,
sur.
Ouais, très beau.
Ouais, ouais sur la physicalité du son, la géométrie rythmique du coup. Et le pouvoir aussi dissociatif et hypnotique de la répétition, parce que c'est très répétitif et assez hypnotique. Voilà, pour l'anecdote, Andrea Taigi a utilisé le système analogique du studio de synthèse de William Tui aux Pays-Bas.
C'est pas
initialement utilisé pour la simulation de vol à l'époque de la guerre froide. Elle est pas belle, mon anecdote.
Toi, t'as des histoires de ouf.
Non, en fait, il n'y avait pas grand-chose à dire, j'ai trouvé ça...
Non, c'est drôle.
Voilà. Donc c'est un artiste qui a su de très près parce que j'ai écouté ses projets précédents qui sont des fois pas sortis physiquement, qui sont sortis seulement en numérique, notamment l'album précédent qui est sorti sur 1000 plateaux. Et ouais, c'est vraiment très chouette. Et même il change un peu d'univers. Bon, ça reste très électronique, mais il y a beaucoup de choses qui se rapprochent de Hotech, de Biosphère ou des trucs comme ça. C'est vraiment très chouette. Donc à suivre de très près cet artiste.
Oui, oui, oui. Merci Mathieu, d'ailleurs c'est une belle découverte. Merci à toi. Et bah, il est temps de vous dire au revoir et de vous remercier. De remercier David Siodos d'avoir participé à notre émission et d'avoir un peu partagé de temps avec vous et nous d'ailleurs.
Ouais. Et puis on voulait vous signaler que pour ceux qui étaient inscrits de force à la mailing list... Vous avez pu voir quelques temps qu'il y avait quelques bugs, que vous receviez des mailing lists qui dataient de. Enfin, des mails qui dataient des émissions ou des mixtapes qui dataient d'il y a longtemps. En fait, avec notre site, on a un petit problème. Ils ont changé les configurations et on ne comprend plus grand chose à l'envoi de mailing lists. Donc, du coup, dès qu'on y touche, ça envoie des trucs qu'on n'a pas envie qu'ils envoient et ils n'envoient pas la truc qu'on veut envoyer. Donc, voilà. Puis, comme ceux qui. C'est-à-dire moi-même, j'ai une patience très limitée avec ce genre de truc quand
bon,
ça m'énerve.
Du coup, vous n'allez pas nous écouter, donc on va vous donner des conseils que vous ne profiterez pas, car vous ne recevrez pas le mail.
Donc, juste un petit conseil, si vous écoutez cette émission, les rares personnes qui écoutent cette émission, vous pouvez vous abonner au flux RSS directement.
Ça marche très bien.
Ça marche très bien, ou alors aller sur Podcast Addict, on est référencé.
Référencé, ouais,
et si vous abonnez à l'émission, vous recevez toutes les émissions en temps et en heure.
Bon.
Voilà, et puis on espère régler le problème, mais pas de suite.
Mais oui, mais pas de suite. Vous inquiétez pas, on prendra le temps.
S'il y a une bonne âme en informatique qui veut nous aider, on est preneur.
C'est vrai. Bon, on remercie toutes les radios qui nous diffusent
ouais.
Rapidement.
Ça, par contre, on est diffusé.
Ouais, on est diffusé, c'est déjà pas mal. Et on vous rappelle que sur notre site, vous avez accès à toutes nos anciennes émissions. Vous pouvez nous réécouter, découvrir nos mixtapes. Et puis
on se retrouve dans à peu près un mois.
Bah c'est ça, on a encore des choses sous le coude. Hein. On a toujours des choses à vous mettre dans les esgourdes.
Voilà.
Donc à bientôt, portez-vous bien.
De même. Ciao.